Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Raphaël, le R de Girafe. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Léo Allépernet, qui est le directeur du château de Saint-Clair, à Bordeaux-Saint-Clair. On va passer quelques minutes dans le cadre des échanges que l'on a mis en place avec le MEDEF pour découvrir un peu cet entrepreneur, découvrir son activité. Et puis, j'espère qu'effectivement, après, on pourra échanger un peu sur ce parcours. Donc, salut Léo.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, Léo, on va faire ça un peu comme à chaque fois, ça va durer 10 minutes. On voudrait un peu connaître, savoir qui est Léo déjà. Ce qui t'a amené à te retrouver aujourd'hui à la tête du château de Saint-Clair, et puis nous expliquer un peu ton parcours, et puis après on parlera un peu du MEDEF si tu veux bien. Donc est-ce que tu peux nous parler de toi ?
Et oui, Léo Allépernet, j'ai 30 ans, je suis moitié cauchois, donc vraiment de la région, et moitié champenois, donc ça c'est les deux casquettes.
C'est un joli mixte.
Ouais, à venir. Je suis de formation ingénieur agronome et j'ai toujours été de manière large fasciné par la nature et puis par les interactions en fait entre les humains et la nature. Après cette formation-là, j'ai travaillé pour un établissement relais château, le château de la Traigne, à Pinsac dans le Lot. Et j'ai créé et entretenu un jardin vivrier et paysager pour donner des légumes au restaurant étoilé là-bas.
Ah oui, donc c'était plutôt dans la partie économie autour du château, mais pas dans l'hôtellerie pure.
Il y avait un hôtel là-bas, mais moi, du coup, je m'occupais plutôt du paysage. Donc j'ai fait une formation de paysagisme aussi et de la partie vivrière. Et là-bas, j'ai été passionné aussi par le fait que ce jardin à vocation vivrière pour le restaurant devait être un endroit qui devait être visitable par les clients et qui devait les fasciner. Et donc j'ai ramené plein de plantes qu'on ne trouve pas ailleurs, donc j'avais une dizaine de variétés de sauge, etc., qui permettaient aux gens de repartir, aux clients de repartir avec un sachet de graines de ces plantes-là, et ce qui crée une histoire du coup assez unique sur le fait de rapporter chez soi
un souvenir, une expérience, c'est très expérientiel.
Exactement.
Et il y avait un restaurant dans ça.
Un restaurant étoilé, oui.
Ah oui, donc tu avais à la fois le côté ton métier d'ingénieur et puis ce côté culinaire, gastronomique et puis effectivement ce côté souvenir.
Tout à fait. Et ça m'a amené à vraiment être orienté sur l'agrotourisme, entre guillemets. J'ai développé cette idée de faire un lieu où que ce soit agri, ludique ou vraiment axé sur un tourisme autour de la nature et de ce qu'on en tire de la nature. Et aujourd'hui, j'avais ce projet-là de remanier un patrimoine ancien et d'en faire un lieu d'accueil à cette vocation.
Donc c'était, là, tu es dans le Lot, donc ça a duré combien de temps ? 4-5 ans ?
Ça a duré 3 ans.
3 ans.
Jusqu'au Covid. Et donc au Covid, je suis remonté sur les terres natales. Et mon père partait à la retraite à ce moment-là, ce qui nous a permis de développer ce projet-là ensemble. Et quand on est arrivé au château de Saint-Clair, on est tous les deux tombés amoureux du lieu directement.
Alors là, tu vas pouvoir nous parler un peu de l'histoire, parce que je suis arrivé et c'était un peu... agréablement surpris, c'est un lieu extraordinaire. D'ailleurs, on invite ceux qui nous écoutent à venir le visiter, mais c'est vraiment un écrin. C'est vraiment très particulier. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé avec ton papa, j'imagine, à reprendre ce château ? Est-ce que c'était un château de famille ? Est-ce que c'est un vrai parcours d'entrepreneur ?
L'histoire du château, ça a été longtemps en fait un foyer pour enfants. Donc, il est assez connu dans le coin puisque les enfants du village, les enfants d'ici allaient à l'école du village, et puis tout le monde venait un peu ici. C'était aussi un lieu de retrouvailles. Et ensuite, ça a été c'est tombé un peu en désuétude. Et il y a une famille qui l'a racheté. Donc, pendant 10 ans, entre les années 2000 et 2000. Donc 2010 et 2020, et puis ils avaient remanié un peu, mais il y avait encore beaucoup de travaux à faire. Et nous, du coup, quand on a repris, on a fait beaucoup de travaux, donc toutes les toitures, les ravalements de façade, les intérieurs, on a redécoré. Et puis on a aussi mis notre touche, ou ma touche si je puis dire, c'est de mettre des vignes autour du terrain de tennis en particulier. Et donc moi j'ai planté plus d'un millier de pieds de vigne pour faire du vin, puisque en Champagne, j'ai aussi la chance de faire partie d'une famille où on est propriétaire de 9 hectares, et donc la maison s'appelle Pernet-Pernet, voilà, qui est un champagne voilà, familial à Vertu et une partie à Embonnet.
Donc là, tu as une petite activité de viticulteur ou de vigneron. Enfin, tu lances cette activité sur combien d'hectares enfin,
alors
combien
ici, de mètres, au château, ouais. c'est plus pour m'amuser et pour avoir un support pour ma clientèle. C'est-à-dire qu'ici, j'offre aussi des dégustations de champagne. On a une superbe cave voûtée que je suis en train de remanier pour vraiment emmener les gens au cœur du château et développer cette offre un peu plus œno-touristique qui n'existe pas en Normandie et qui permet aussi de se différencier par rapport aux autres établissements.
Et donc, pour revenir sur le... Donc vous avez acquis le château donc familialement en 2021. Et là, tu lances, donc après, réfection, architecte des bâtiments de France, j'imagine. Enfin, il y a tout un contexte de rénovation quand même que tu as dû mener ici, non ?
Oui, on n'a pas été trop sujet pour les architectes des bâtiments de France, dans le sens où nous, on a fait vraiment de la rénovation de fond, donc les toitures, etc. La seule problématique, c'était pour la piscine, et on a réussi à trouver une solution pour construire une piscine, donc ça c'est le projet 2025. Pour la plantation de vignes non plus, puisque ça a été il y a eu moins d'administration depuis les années 2015, il me semble, où on a de nouveau le droit de planter des vignes. Voilà. Et après, la grosse partie de 2024, c'était de refaire l'ERP donc de la grange pour pouvoir accueillir voilà, 130 personnes assises dans une grange qui a été remaniée à l'époque par un architecte de renom qui s'appelle Roland Schweitzer et qui a évidé en fait, les colombages de cette grange, ce qui la rend vraiment lumineuse et vraiment unique.
Ça nous permet de parler, on va parler un peu de l'activité. Donc aujourd'hui, c'est quoi l'activité du Château Saint-Clair ? Alors on voit que c'est du réceptif, mais est-ce que c'est de l'hôtellerie ? Est-ce que c'est du réceptif ? Comment est-ce que vous organisez votre activité ?
Alors on a un triptyque qui est l'hôtellerie en premier, donc c'est vraiment à vocation touristique. C'est ce qu'on a développé les premières années. L'événementiel, donc ça c'est dans un second temps, on a réussi à développer vraiment une offre mariage appropriée. Donc là pour 2025, on est complet et pour 2026, on ajoute une offre un peu plus de wedding planner, donc pour accompagner vraiment les couples dans tous les aspects de l'organisation de leur mariage. En événementiel aussi, une offre séminaire adressée aux entreprises dans ce cadre unique qui permet d'héberger tous les collaborateurs pour des comités de direction et puis avec des salons modulables dans un patrimoine architectural qui vaut le coup.
Donc, oui, je confirme, c'est splendide.
Avec des cheminées, etc. Donc c'est des choses qu'on voit pas trop ailleurs. Et puis une partie que j'appelle plus culture, donc où on a deux fils conducteurs qui sont la culture de la vigne, donc un aspect plus nature, avec un parc de 5 hectares, donc avec déjà un jardin qui est remarquable, et aussi un aspect culture que j'appelle plutôt axé sur un fil conducteur musique, puisque tu peux le voir ici, le plateau central de cette cuisine est en forme de piano grand queue. Je ne sais pas si tu as remarqué.
Non, mais effectivement.
fait par Monsieur Borin de Le Monde de la Pierre, à Relleville. Même le pied est vraiment taillé dans la pierre. Et il y a le clavier qui arrive là bientôt. On a un salon où on met à disposition des instruments de musique. Il y a plusieurs clins d'œil à la musique. Et il y a aussi des œuvres, des sculptures un peu disséminées dans le parc qui permettent d'avoir un fil conducteur artistique, un peu entre guillemets, comme on voit les décorations de la chambre, des chambres qui sont faites par un artiste contemporain, Théo Déco, qui sont vraiment toutes uniques. Et je vous invite à aller les regarder. Sur notre site, on a des visites 3D.
À
venir visiter physiquement, bien sûr.
Bon, donc on voit finalement que tu as réussi historiquement entre le fait de pouvoir associer ta passion pour l'agrotourisme, développer ce genre de choses, plus le patrimoine. Donc c'était quand même une belle aventure.
Ouais, et dans ces établissements-là, on doit rester humble parce que ça a déjà 400 ans d'histoire derrière nous. Donc on ajoute notre petite touche, mais Il faut aussi voir qu'il y aura encore 400 ans, voire plus, plus tard. Et donc, il faut pouvoir mettre sa patte sans trop déstructurer les choses.
Donc, chacun écrit une petite page du livre. Et là, tu es donc... donc c'est souvent les passeurs d'histoire. C'est un peu, donc, quand on est dans un lieu qui est forcément chargé d'histoire comme ici, c'est un peu l'ADN du lieu. Quoi.
C'est ça.
Alors, une dernière question, puisque on fait le principe, c'est effectivement, on en parlait en préparant un peu notre discussion, c'est de dire il faut que chacun arrive à se connaître. Donc, au MEDEF, c'était un peu de savoir quelles ont été les raisons pour lesquelles tu as un peu rejoint le MEDEF. Est-ce que tu as identifié quelque chose au sein de ce réseau qui pouvait effectivement correspondre à ce que tu voulais développer?
Mais tout d'abord, pour rencontrer des personnes inspirantes, comme bah toi, tu fais là, sur la tournée de podcast, c'est aussi l'ambition. et donc, voilà, rencontrer, en savoir plus sur ces personnes-là, les rencontrer aussi physiquement pour parler de leur aventure entrepreneuriale et puis découvrir aussi des établissements que je ne connaissais pas dans la région. Et qui sont tenus par des personnalités toujours intéressantes. Quoi. C'est ça l'objectif.
Eh bien, écoute, tu vois, c'est tout le but de ces podcasts-là, c'est de faire une sorte de lien entre les différents adhérents. Je tiens à te remercier. On va conclure notre conversation. Je tiens à te remercier pour l'accueil. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à prendre contact avec toi et à venir voir, parce que c'est... Et pourtant, je suis un local de l'étape, mais c'est un très bel endroit, ça, et on sent qu'il y a un potentiel extraordinaire. Et puis, on se retrouve certainement dans les différents événements du MEDEF. En tout cas, merci de ton accueil. Et puis, pour conclure, j'ai appris que tu étais un heureux jeune papa, donc bienvenue à ton fils qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, je crois.
Ben merci à toi d'être venu ici interviewer. Et puis, effectivement, j'invite tout le monde à venir visiter, si ça les intéresse, de se retrouver au cœur du patrimoine cauchois avec un établissement qui est caché de la route, puisque sur les Clos-Mazur, on dit que vivons heureux, vivons cachés. Et dans cet écrin, vraiment, tous les événements sont possibles et imaginables. Donc, merci beaucoup et puis au plaisir de se revoir.
Un grand merci. Salut Léo.
Merci, salut.